Nous allons reprendre le texte dans 1 Roi chapitre 17, les versets 17 à 24. Élie et la veuve de Sarepta. C'est une histoire assez connue dans l'Ancien Testament. Et elle est même citée par Jésus dans l'Évangile de Luc, chapitre 4, les versets 25 et 26, qui dit « De plus, je peux vous assurer qu'il y avait beaucoup de veuves en Israël à l'époque d'Élie, lorsque la pluie ne tomba pas durant 3 ans et demi et qu'une grande famine sévit dans tout le pays. Pourtant, Dieu n'envoya Élie chez aucune d'elles, mais seulement chez une veuve qui vivait à Sarepta, dans la région de Sidon. Il y avait aussi beaucoup de lépreux en Israël à l'époque du prophète Élisée. Pourtant, aucun d'eux ne fut guéri, mais seulement Naaman le Syrien. » D'où la question, pourquoi l'Éternel a-t-il envoyé Élie vers cette femme? Pour mieux comprendre l'histoire, il faut savoir le pourquoi de la venue d'Élie dans ce coin perdu. L'Éternel a donné l'ordre à Élie de fuir la reine Jézabel, l'épouse du roi Akab. Il faut rappeler que Jézabel n'était pas juive, pourtant elle était reine d'Israël. Elle est sidonienne. Elle avait une grande influence sur le roi en l'incitant à adorer Baal, le dieu de la fertilité, à la place de Yahvé. Et pour faire asseoir encore un peu plus son pouvoir, elle a tout fait pour exterminer les prophètes d'Israël. C'était une femme manipulatrice. Elle faisait tout pour que Yahvé ne soit plus vénéré en Israël. Un jour, le roi fut attristé. Et elle a posé la question, « Pourquoi es-tu triste ?» C'est à cause de l'attitude de Naboth. J'ai voulu acheter sa vigne, mais il refuse de me la vendre. Oh, c'est rien que ça, ne te tourmente pas. Je vais aviser et trouver une solution. Alors Jézabel écrivit des lettres à certains notables de la ville où habitait Naboth. Prenez des vauriens, leur ordonne-t-elle, et demandez-leur de dire que Naboth a maudit Dieu et le roi. Puis, faites-le sortir de la ville et lapidez-le. Voyez, jugez comment cette femme est. Nous pouvons alors constater de quoi elle est capable pour détrôner Yahvé dans le culte d'Israël en faveur du dieu Baal. C'est pourquoi l'Éternel a conseillé à Élie d'aller en premier temps se cacher au bord du torrent de Kérit, dans ce lieu très difficile et compliqué, parce qu'il était nourri par un corbeau. Un grand prophète nourri par un corbeau. Mais quand le torrent fut sec, l'Éternel l'a envoyé vers Sarepta. Et là, comme par hasard, dans notre langage humain, il est encore tombé sur une femme sidonienne. Il a fui la reine Jézabel, qui est une sidonienne, et là, il est tombé devant une femme sidonienne. Mais cette fois-ci, qui n'a rien à voir avec Jézabel, c'est une veuve. C'est aussi une femme païenne. Et l'Éternel l'a envoyée vers cette femme pour fuir la colère de Jézabel. Ce qui est étonnant dans cette histoire, pour moi personnellement, et j'aimerais vous partager cela dans cette méditation, c'est de voir comment Dieu console son serviteur à travers une femme sidonienne, comme il l'a consolée par le biais d'un corbeau. Et regardez, le parallélisme est plus qu'interpellant. Dieu vient au secours d'Élie en utilisant un corbeau et une femme sidonienne qui est censée être une idolâtre. Nous savons tous qu'un corbeau, normalement, est un animal qui a une image assez mauvaise, assez négative pour l'homme. Pour certains même, c'est le signe de malheur, parce que c'est un charognard, et il débarrasse la nature de restes de carcasses. Le corbeau est souvent assimilé à la mort, même dans les films d'horreur que nous regardons, souvent on utilise cette image du corbeau. Mais c'est ce genre d'animal ici qui est envoyé par Dieu, vous voyez ? Ces genres d'animal qui symbolisent la mort, mais qui apportent la vie à son serviteur, Élie. Nous avons l'habitude d'entendre, quand nous lisons ce texte, que Dieu vient pour la femme sidonienne. Et ce n'est pas du tout faux. Mais aujourd'hui, si nous suivons bien la trame de cette histoire, là, il y a un précédent avant qu'Élie arrive devant cette pauvre femme. Dieu console Élie. Parce qu'on a toujours la tendance de se retourner vers le païen. C'est le païen qui a besoin d'être corrigé, consolé, corrigé. Non ! Ici, Dieu est en train de corriger son serviteur, le prophète Élie. Dieu va lui donner une leçon à travers cette femme si modeste, si pauvre. Dieu veut consoler le cœur de son serviteur parce qu'il se sentait rejeté. Il se sentait seul, Élie, rejeté par son peuple qui a renié l'Éternel et qui a choisi d'adorer un nouveau dieu, Baal. Consoler son serviteur qui croyait être le seul prophète de Dieu, restant survivant, car dans sa tête, il a entendu parler que tous les prophètes de Dieu ont été massacrés par Jézabel. Donc, pour lui, c'était la fin. Il n'attendait que quelques minutes pour mourir. Donc, à ce moment-là, Élie était dans une situation vraiment difficile. Il n'y avait plus d'espoir, c'est le désert. Et au chapitre 19, ce livre nous montre un Élie découragé. Oui, il faut le dire, même les grands serviteurs de Dieu peuvent être découragés. Un Élie fatigué. Mais voilà que Dieu lui dit une nouvelle inattendue. Qu'est-ce que Dieu lui a dit dans le chapitre 19 ? « Mais je laisserai survivre 7000 hommes du peuple d'Israël, à savoir tous ceux qui ne se seront pas mis à genoux devant le dieu Baal et n'auront pas donné de baiser à ses statues. » Paf ! C'était une bonne nouvelle. Il y a encore 7000 personnes qui n'ont pas encore cédé à la persécution. C'était comme une eau fraîche dans l'esprit d'Élie. Et comment l'Éternel a fait pour redonner du courage à son serviteur ? Il l'a envoyé vers cette femme qui est censée ne pas connaître Dieu. Mais à sa grande surprise, cette femme l'a bien accueilli, contrairement à la reine Jézabel, lui donnant à manger, contrairement à Jézabel qui voulait sa mort. Et par la suite, l'histoire douloureuse que nous venons de lire tout à l'heure, il y avait la mort du fils unique de cette femme. Et là, Élie était aussi un peu perdu face à ce qui s'est passé quand il a dit « Mais Seigneur, mon Dieu, cette veuve m'a accueilli chez elle. Mais vais-tu vraiment la rendre malheureuse en faisant mourir son fils ?» Et là, comme nous le disons à chaque fois, les voix du Seigneur sont « Dieu redonne la vie au petit garçon. » Et ce qui est plus important dans l'histoire, c'est la confession de foi proclamée par cette femme. Une femme qui ne connaît pas Dieu, qui fait une confession de foi. Et voilà ce qu'elle dit. « Cette fois-ci, je reconnais que tu es un prophète de Dieu et que tu parles vraiment de la part du Seigneur. » Et le mot « Seigneur » ici, dans la Bible hébraïque, « Yahvé » et le mot « Dieu » « Elohim ». Donc c'est bien précis, au verset 18, elle avait déjà dit « Prophète de Dieu, pourquoi m'as-tu fait cela ?» Là, elle utilisait encore le mot « Dieu Elohim », c'est un nom des dieux païens. Mais au verset 29, là elle dit « Tu es Yahvé, tu n'es pas comme les autres dieux. » Le fait d'entendre cette déclaration de foi venant d'une femme sidonienne pour Élie, est une grande consolation inespérée. Lui qui croyait que tout le monde s'est détourné de l'Éternel, mais voilà, cette femme est devenue un messager d'espoir pour le prophète. Le grand Élie, un des grandes figures de la foi juive, a reçu une leçon, une consolation par une femme païenne. Et dans notre vie aussi, souvent, comment Dieu utilise certaines personnes pour nous consoler. Moi, personnellement, dans mon ministère, c'est toujours à travers des gens comme ça que Dieu nous reprend. Oui, même en tant que pasteur, en tant que serviteur de Dieu, Dieu nous donne des leçons d'humilité pour te dire que même si tu as le statut de pasteur, je vais te faire rencontrer des gens simples, que tu crois païens, mais qui ont encore la foi plus que toi. Et ça, ça fait réfléchir. Ça nous fait bondir de notre milieu où on est. Parce qu'on se fait trop d'idées sur soi-même. On se croit au-dessus des autres. Mais non, finalement, nous ne sommes rien du tout. Et même Élie ici a fait cette expérience. Chers frères et sœurs, notre Dieu est un Dieu qui aura toujours plusieurs cordes dans son arc pour nous consoler. Il ne cessera jamais de nous surprendre. Là où on ne l'attend pas, il est là. Il sera là. Et Élie n'a pas pu imaginer que sa venue vers cette femme, cette pauvre femme, faisait partie du plan de Dieu pour le remonter et afin qu'il réagisse de nouveau. Parfois, nous nous faisons une autre opinion de nous-mêmes, comme je viens de le dire tout à l'heure, mais Dieu nous fait vite faire revenir à la réalité. Dans le but, non dans le but de nous rabaisser, c'est pas ça. Dieu ne nous rabaisse jamais, mais de nous affermir encore un peu plus dans notre foi. Là où Élie croyait qu'il n'y avait que le chaos, la sécheresse, la mort même, l'Éternel démontrait qu'il est la source de la vie. Puisqu'il faut savoir que Baal était considéré avant comme le dieu de la fertilité, et Yahvé était le dieu du désert. Pour ses contemporains, Dieu était le dieu du désert. Pourquoi ? Parce que, à cause de l'histoire d'Israël jusqu'à maintenant, les Hébreux sont des nomades qui erraient dans le désert, un peu partout. Et quand ils apportaient que nous avons notre Dieu, ah oui, votre Dieu, c'est le Dieu du désert. Quand ils sortaient d'Égypte, rappelez-vous, 40 ans, ils ont dû traverser, tourner dans le désert. Oui, c'est le Dieu du désert. Oui, ce Dieu du désert est notre Dieu. Et je suis fier de faire partie de ses adorateurs. Et si tu traverses des déserts en ce moment dans ta vie, ne t'en fais pas. C'est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Ne t'emballe pas. Yahvé, ton Dieu, est le Dieu qui agit dans le désert. Notre Dieu est celui qui a dit « Je vais faire jaillir des fleuves sur les hauteurs dénudées et des sources au fond des vallées, changeant le désert en étang et la terre aride en oasis. » Amen.